La chasse fatale de Charles X par Jules Chancel. Le 26 juillet 1830, le roi Charles X est à Saint-Cloud et il se lève ce matin-là de bonne heure et de fort excellente humeur. Aussitôt sa toilette achevée, il fait ouvrir la fenêtre de sa chambre afin de se rendre compte lui-même de la beauté du jour qui commençait. « Aubry, dit-il à son premier valet de chambre, mettez de l'or dans ma bourse, je chasse aujourd'hui à Rambouillet. » Puis sa majesté descendit et au bas du grand escalier passa devant une double haie de gentilshommes et de courtisans qui s'inclinaient devant lui. Le roi était si absorbé par le plaisir qu'il se promettait qu'il ne remarqua même pas l'air soucieux des gens de sa cour et gaiement il annonça « Messieurs, nous montons en voiture. » On part, la lourde berline royale, attelée de 6 chevaux et escortée par un peloton de gardes du corps, monte à vive allure la côte qui mène à Ville-d'Avray. Dans le lourd équipage aux roues ferrées qui sursautent sur les pavés, Charles X sifflote sans engager la moindre conversation avec ceux qui ont pris place à côté de lui. C'était M. de Girardin, son grand veneur, et le duc de Luxembourg. Quand on roula sur une route moins bruyante, le roi se décida. « Général, demanda-t-il, avez-vous lu les ordonnances ?» Le grand veneur hésita un instant avant de répondre, puis enfin il osa parler. « Sire, c'est un coup d'État. Et je pense que le roi ne l'a pas tenté avant d'avoir 6 000 hommes de troupes dans Paris. » Le roi sourit. « Je n'ai pas l'intention d'imiter la faiblesse de mon pauvre frère, et il devenait urgent d'opposer la force et l'énergie à une malveillance notoire. » « Peut-être, répondit le comte de Girardin, mais à la place du roi, je ne me serais pas éloigné aujourd'hui de Saint-Cloud. » « Le conseil des ministres a été unanime à m'affirmer que cette absence ne pouvait avoir aucun inconvénient. » Après ce court dialogue, le silence régna de nouveau dans la voiture jusqu'au relais de Coquières, où l'on ne prit que le temps de changer les chevaux blancs d'écume. Peu de temps après, l'équipage royal longeait les vastes étangs de Pourras, et à 1 heure, on arrivait au poteau des deux châteaux. Là, attendait une foule nombreuse, composée d'hommes et de femmes de toutes conditions, et sous la voûte des beaux arbres, cette réunion prenait un air de fête. Dès sa descente de voiture, Charles X est entouré de courtisans qui le félicitent. Pendant ce temps, les valets de Limier font leur rapport. Ces rapports indiquaient un cerf à sa 4e tête dans les bois de la Pommeraye, un cerf d'Icor près les tailles de Villarceau, enfin un cerf d'Icor jeunement dans les environs du poteau du roi. Monsieur de Girardin, auquel le commandant de la Vénerie communique ses rapports, reste toujours harcelé par ses inquiétudes et n'a qu'une pensée, celle du retour à Saint-Cloud. Son instinct lui dit que la place du roi n'est pas à Rambouillet un jour pareil, mais la confiance de sa majesté reste inébranlable. Il a désigné pour l'attaque le 10 corps des tailles de Villarceau. Les relais sont distribués, les chiens découplés, 1 heure se passe en requête. Enfin, on a vu l'animal par corps et au grand désespoir des piqueurs, on constate que ce n'était pas un cerf, mais une grande biche. Alors les piqueurs de sonner aussitôt pour arrêter la chasse. Ils courent de tous côtés, poussent de grands cris, c'est à faire perdre la tête aux hommes et aux chiens. Le roi, furieux de ce désordre, demande ce qui se passe et mande auprès de lui le valet de Limier qui a fait le rapport. Il se demande même si cette bévue n'a pas été commise volontairement sous les ordres de M. de Girardin pour arrêter la chasse. Mais le valet, interrogé, s'excuse presque en pleurant. « Sire, dit-il. J'ai pris une prébaigne pour une 4e tête, mais c'est qu'aussi cette bête-là avait un vrai pied de cerf et le revoir était bien mauvais ce matin. Le roi s'y serait trompé lui-même. « Tu seras plus heureux une autre fois, dit-il au limier. C'est après tout un petit malheur et je ne veux plus y penser. » Le veneur en fut quitte pour cette consolation. Il salua le roi, dont la bonté augmentait ses regrets, et se retira tout confus. « Allons à notre 10 corps du carrefour de Villarceau, » ordonna le souverain. Monsieur de Girardin fait observer qu'il était déjà 4 heures et que le cerf en question se trouvait à plus de 2 lieues. Mais le roi s'entêta. « Nous avons tout le temps, » répliqua-t-il avec autorité. Les ordres sont donnés et la troupe des cavaliers se met en route au grand trot au son de la fanfare qui sonne la Rambouillet. Cette fois, on est sûr que l'animal sera à merci et n'échappera pas au relais. Aussi, tous les spectateurs venus de la petite ville voisine comme à une fête locale se dirigent-ils vers les étangs où le cerf ne manquerait pas de provoquer un ballot. Quand Charles X arriva au milieu de cette foule, il fut accueilli par des acclamations, des saluts empressés et des cris de « Vive le roi !» Cette réception chaleureuse sembla être particulièrement agréable au souverain, qui, quittant aussitôt son air préoccupé, se montra le parfait et galant gentilhomme qu'il était. Il saluait tout le monde et s'excusait auprès des dames que la chasse alla aussi mal, puis, s'approchant de son grand veneur, il lui dit tout bas « Vous voyez bien, éternel trembleur, que rien de mauvais ne se passe à Paris, puisque nous ne recevons pas de nouvelles. » Monsieur Girardin secoua la tête. « J'aurai l'honneur de faire observer au roi, dit-il, qu'à Saint-Cloud, il en saurait probablement davantage. » Cette fois, l'avertissement sembla avoir porté. « Eh bien, monsieur, puisque cela vous arrange, annonça Charles X en descendant de cheval, nous allons rentrer à Rambouillet, et nous partions pour Saint-Cloud avant l'heure fixée. » Déjà, le premier veneur, ravi, faisait avancer la voiture du roi, mais le souverain, toujours peu pressé, voulut encore visiter les constructions qu'on était en train d'élever dans les environs et qui étaient destinées à servir de remise à ses équipages. À ce moment, un paysan, profitant de la liberté qui régnait toujours durant les chasses, s'approcha du roi au point de le heurter. Charles X, rendu peut-être un peu nerveux par les mines soucieuses de ceux qui l'entouraient, ne fut pas maître de réprimer un mouvement d'impatience. « Faites retirer cet homme » ordonna-t-il. L'homme fut aussitôt renvoyé, mais peu d'instants après, le roi, regrettant sa mauvaise humeur, le fit rechercher pour le dédommager par quelque libéralité. Mais il était trop tard, on ne le trouva pas, l'homme avait disparu. L'équipage entra dans la cour du château de Rambouillet au moment où le jour commençait à décliner. En descendant de sa voiture, Charles X contempla un instant la vieille construction, sa grosse tour crénelée et cet assemblage de bâtiments irréguliers reliant le Moyen-Âge au XIXe siècle. Après quelques instants de réflexion, le roi ne put s'empêcher de murmurer « François Ier, mon aïeul, est mort ici après une chasse à cour. » Puis, secouant ses sinistres pensées, il annonça gaiement à ses familiers « Messieurs, allons faire une partie de billard en attendant le dîner. » Ce dîner fut triste, presque morne. Dès qu'il fut terminé, pendant que le dauphin s'amusait à reconstituer sur une grande carte de la forêt, suspendue dans le vestibule, l'itinéraire qu'avait suivi le cerf, le roi prit à part son confident, le comte de Girardin, toujours préoccupé, et lui demanda brusquement « Ainsi, comte, ces ordonnances vous préoccupent toujours ?»« Oui, sire, » répondit le grand veneur avec franchise. « Elles constituent, certes, une preuve d'énergie de la part de votre majesté, mais, à mon sens, cette énergie exigeait certaines conditions de défense qui n'ont pas été remplies. J'ajouterai que la France me paraît peu préparée aux mesures que le roi vient de prendre. » Charles X se raidit, et presque froissé, il répondit sèchement « C'est là votre erreur. J'ai donné à l'article 14 de la charte sa juste interprétation. En cas d'urgence, dit cet article, il appartient au roi de faire les ordonnances nécessaires au salut de l'État. Cela est fort clair et, cependant, à vous entendre, le trône est en péril. » Le grand veneur eut le courage de ne pas se laisser intimider. « Il est de mon devoir d'indiquer au roi, » continua-t-il gravement, « que si l'intervention de la force devient nécessaire, les régiments de la garnison de Paris refuseraient peut-être d'obéir. » « Qui vous a dit cela ? Un des membres les plus influents de l'opposition parlementaire, le premier des 221. Il m'a été affirmé que les régiments avaient eu quelques contacts avec les députés libéraux. » Charles X tapa du pied. « C'est une mentardise sans fondement, » s'écria-t-il, « qu'ils ont voulu m'adresser par votre intermédiaire, général. »« Je ne le crois pas, » répliqua courageusement le grand veneur, « car il y a 2 heures, j'étais dans Paris, et j'ai vu partout une grande agitation. Les visages étaient consternés. Les journalistes parlaient de protestation, de résistance. À mon avis, le roi joue en ce moment une partie trop dangereuse. Et alors, vous pensez que le retrait des ordonnances seul pourrait la faire gagner au roi ?» Jamais. Sur ce mot définitif, que peuvent si rarement prononcer des lèvres humaines, même royales, Charles X sortit sur le perron, et ses regards s'arrêtèrent sur la pointe de l'île des Roches où s'élevait un petit kiosque. C'était l'asile favori de Napoléon. Tout près de là, se trouve la grande pierre plate appelée le banc de l'empereur. C'est sur ce banc que, dit la légende, il avait déployé les cartes géographiques sur lesquelles il avait tracé le plan de la désastreuse campagne de Russie. Ce fut également à Rambouillet que le 25 juin 1815, après la néfaste bataille de Waterloo, Napoléon, qui se rendait à Rochefort, s'arrêta une nuit au château, nuit sinistre du souverain jusque-là si puissant, qui devenait un simple proscrit. Ses souvenirs assaillirent le roi à la suite de la conversation qu'il venait d'avoir avec le comte de Girardin. Mais il ne voulut pas se laisser aller aux craintes, à la tristesse, et soudain il ordonna « Ma voiture, nous rentrons !» La voiture vint, quelques instants après, se ranger devant les degrés du perron. Mais au moment où le roi et le dauphin allaient y monter, on aperçut, au fond de l'avenue de Paris, un courrier qui arrivait au triple galop. Quelques minutes plus tard, ce courrier apprenait au souverain les terribles nouvelles, la révolution était déchaînée à Paris. Une semaine après, le roi était en fuite, les troupes armées marchaient sur le château de Rambouillet, et à leur tête se trouvait l'homme que Charles X avait fait éloigner au cours de cette chasse fatale. Ce fut la dernière chasse de Charles X, la dernière chasse royale des Bourbons en France. Jules Chancel.